Bonsoir à tous. Merci d'être venu accueillir avec nous Adrien Bosque, qui vient ce soir nous présenter son premier roman, Constellation. Donc Adrien Bosque est déjà venu, c'est la troisième fois qu'il vient nous rendre visite. Les deux premières fois, c'était pour nous présenter la revue d'Esport, dont vous êtes le fondateur. Vous êtes également responsable de la revue Feuilleton et des éditions du Sous-Sol. Et donc là, vous nous présentez votre premier roman. Premier roman qui a reçu le grand prix de l'Académie française et qui a eu quand même énormément de succès dès sa parution, parce que vous étiez dans de nombreuses listes pour la sélection des prix. Est-ce que c'était pas un peu inattendu ?
Alors bonsoir, merci d'être là. Oui, je suis venu. Enfin, je vais revenir. Je suis revenu plusieurs fois avant, mais pour mes activités, on va dire autres, qui sont d'édition, et c'était à la fois pour les revues des sports dont je m'occupe, et puis tout ça est mêlé dans une même maison d'édition qui publie deux revues et différents livres. Et évidemment, c'était plus que surprenant ce qui s'est passé autour de ce livre et effectivement dès sa parution. Ça a été. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, sinon peut-être que l'événement est. Alors, je ne sais pas si c'est l'événement lui-même qui relatait le fait divers qui était plus marquant que d'autres et qui est resté un peu comme ça dans la mémoire collective, ou si, et c'est plutôt ce vers quoi je pencherais, mais alors sans doute aussi pour me gargariser de quelque chose, que ce que j'ai entendu le plus souvent en librairie et dès le départ, des gens qui en avaient eu l'écho et qui tout de suite s'étaient rendus en librairie pour lire ce livre, que c'était la part à la fois que la part centrale des anonymes était ce qui d'abord intéressait les lecteurs et que le décentrement, on va dire, sur un événement tragique mais phagocyté par une personnalité qui n'était connue que par la personnalité. Le fait même que ce soit les autres points de vue, que ce soit les personnages dits secondaires, annexes, qui est la parole ou qui est voix, comme on dit au chapitre, qui puisse d'abord, en tout cas, intéresser les gens. Et ensuite, que ça croise d'autres notions plus vastes, qui sont les notions de hasard, de destin, de synchronicité, de coïncidence, et que ce fait divers ne soit pas là comme un simple objet d'étude un peu froid, mais qu'il soit l'occasion d'affronter justement des notions plus vastes. Et après, on n'explique pas du tout. J'ai l'impression que alors peut-être que je le verrai avec l'âge, ou je ne sais pas, mais que en tout cas. De rencontrer le public, c'est soit un malentendu heureux ou malheureux, mais que là, c'était très heureux et que toutes les explications que je donnerais sont, à mon avis, toujours à côté. Mais en tout cas, j'en étais le premier surpris. Je m'attendais plutôt à une douce indifférence de ce livre, comme 600 romans sortent à la rentrée et je n'avais rien écrit avant.
L'indifférence, c'est un peu loupé. Mais donc, Constellation, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, retrace ce fameux crash de cet avion qui transportait Marcel Cerdan. Donc, c'est peut-être un peu étonnant de votre part d'avoir choisi ce thème pour premier roman. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à vouloir l'écrire ?
C'est souvent, vous avez... Alors, je ne sais pas, j'ai pas non plus une expérience très, très grande de non plus de l'écriture ou du moins de comment un sujet s'empare ou pas de vous et de votre capacité à relever le défi de cette écriture-là. Mais j'entendais, et je ne me compare en rien, heureusement, je n'ai pas, je ne pense pas être devenu tout à fait, totalement immodeste, mais j'entendais... une interview de Truman Capote qui racontait comment de sang-froid lui était apparu, c'est-à-dire comment d'un coup, une coupure, un article dans un journal, un entrefilé qui concerne un meurtre, paraît vous, comme vous convoquer et vous paraissez le plus à même, non pas d'y répondre, mais d'y prêter l'oreille et après de voir ce que littérairement vous allez en faire. et à quel point justement l'écriture va pallier ce que le journalisme n'apporte pas de supplément d'âme. De la même manière, et ce qui tombe plutôt bien pour un livre qui questionne le hasard et aussi cet exergue central qui est dans le livre et qui résume un peu le propos, qui est une exergue d'Antonio Tabucchi, d'un livre qui s'appelle « Femme de Portopim » et autre histoire qui se passe aux Açores. Et c'est l'exergue, cette citation dit « La combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie. » Et cette phrase-là, elle vaut autant pour une combinaison de mots écrites, à quel point une phrase peut changer le cours de votre vie, mais aussi de celle, par exemple, dans cet avion-là, pour ce fait divers-là, de Piaf, disant à Cerdan, prends l'avion, le bateau, c'est trop long. Comment une combinaison de quelques mots, effectivement, oriente ou désoriente une vie. Et dans mon cas personnel, ce n'est pas, et l'évidence aurait peut-être été de s'intéresser à cet avion par Cerdan, parce que, ne serait-ce que parce que je m'occupe d'une revue qui a trait un peu au sport, que je me serais penché sur cette histoire d'abord par cette connaissance-là. Et je pense que c'est surtout parce que je ne suis pas entré, on va dire, dans l'avion par Cerdan, que j'ai pu découvrir les autres d'abord. Que finalement, nombreux journalistes sportifs de l'équipe qui m'ont parlé du livre après m'ont dit que c'était un peu comme le motif dans le tapis, dans la nouvelle de James, c'est-à-dire tellement présent qu'invisible aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'ils étaient tous focalisés sur la vie de Cerdan, sur les conditions du drame pour Cerdan, et n'avaient jamais voulu voir à la fois l'entremêlement de destins incroyables qui composait cet avion. Et j'y suis rentré par les violons de Ginette Neveu, d'abord, et par un hasard qui a été le mien, de tomber sur une vidéo qui était l'enregistrement du Grand Échiquier de Jacques Chancel, consacré à Étienne Vatelot, le luthier. Et lors de cette émission, que je ne vais pas vous résumer, que je ne vais pas développer plus que ça, mais qui est une émission durant laquelle Étienne Vatelot, qui a été le dernier luthier à avoir verni et à s'être occupé des deux violons de Ginette Neveu, à savoir un Guadagnini et un Stradivarius. Étienne Vatelot, à cette époque-là, était l'apprenti de son père, Marcel Vatelot, qui tenait ce temple de la lutherie française qui se trouve rue Portalis, derrière l'église Saint-Augustin à Paris. C'était une émission hommage à ce luthier qui était orchestré par Jacques Chancel. Ils avaient reconstitué dans le studio des Buttes-Chaumont, l'atelier, et venaient jouer pour lui à la fois ses clients et amis, Rostropovitch, Isaac Stern ou Yehudi Menuhin. Et lors de cette émission, il en vient à parler, et je regardais la vidéo comme tout un chacun, il en vient à parler de Ginette Neveu, qu'il devait suivre lors de sa tournée américaine, la fameuse tournée triomphale pour laquelle elle s'envole en cet avion. Une semaine plus tôt, c'est ce qu'il raconte, et j'entendais la voix d'un miraculé indirect du vol, comment Ginette Neveu, une semaine plus tôt, était venue à l'atelier lui demander d'ajourner son départ, de prendre un bateau. À la différence de Piaf lançant à Cerdan, prends l'avion, le bateau, c'est trop long, on pourrait presque interpréter les mots de Neveu en disant prends le bateau, l'avion, c'est trop rapide. C'est-à-dire qu'elle va, roder son programme à Saint-Louis, c'est ce qu'elle lui dit, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il la suive de si tôt. Et il troque son billet pour un billet sur la French Line. Et j'étais d'ailleurs l'autre jour avec la veuve d'Étienne Vatelot. On est retourné rue Portalis. Ils m'ont montré une photo que je n'avais jamais vue, qui est une photo où il part, il est à la gare pour aller vers le port. Enfin bon, c'est un départ avec ses parents, avec Marcel Vatelot. C'est une photo que je n'avais jamais vue. Et durant cette vidéo, pardon, je vais faire plus rapide, il raconte déjà finalement le destin d'un miraculé, puisque je savais qu'il en existait trois autres, qui étaient ceux qui avaient fait les frais du droit de priorité de Cerdan. Et puis il en vient à parler d'un retour un peu rocambolesque d'un archer retrouvé par les membres de la commission d'Air France, se rendant à l'atelier des semaines après le drame pour authentifier un archer trouvé sur les monts du Redondo aux Açores, là où avait eu lieu le crash. Et à la fois, il raconte les conditions donc, de cette redécouverte, les membres de la commission d'Air France descendant le mont Redondo et entendant, selon leur dire, gratouiller d'un violon dans une cabane d'un pêcheur. Et rentrant dans cette cabane et découvrant effectivement un pêcheur des Açores jouant maladroitement d'un violon avec un archer qui paraît bien précieux pour sa condition, puisqu'il est, c'est un Wilhelmson, certidor, monté sur écailles de tortue, donc une petite merveille. Et il lui demande évidemment, c'est à vous ceci, lui répond non, je l'ai trouvé. Et Vatelot, entendant le récit, leur dit, mais qu'avez-vous fait du violon? Et ils répondent, il avait l'air si vieux. Et moi, enfin, en regardant cette vidéo, je reste stupéfait déjà par cette scène qui est donc d'apprendre davantage que le mythe, que cette histoire de Cerdan, que cette histoire de crash aux Açores, mais aussi la disparition de deux violons. Et puis, la redécouverte à la toute fin de cette vidéo, et je reste stupéfait, d'un des morceaux du violon qui est ce qu'on appelle la volute, la tête, qui revient bien des années après, portée par un pianiste qui l'a reçu de l'ambassadeur de France au Brésil après un concert, ce même ambassadeur ayant été consul de France au Portugal au moment du drame. Enfin, une affaire d'autant plus comme ça, à plusieurs échelons, et puis qui passe de continent en continent, avec une volute qui réactualise un drame comme ça, en direct à la télévision. Et en voyant cette vidéo où Étienne Vatelot authentifie le violon et a des sanglots dans la voix en répétant de manière frénétique « C'est la tête du Guadagnini, Ginette Neveu », j'y voyais plus qu'un objet d'enquête journalistique, mais sans jouer sur les mots, parce que c'est la réalité, un objet de quête, mais comme un objet de quête qu'on trouve dans les contes. Ça soit le conte d'Hoffmann des violons, mais que ça soit également, tout simplement, l'objet qui est au centre d'un conte et le lien entre les victimes, ça ne sera pas des victimes dans un conte, mais ça sera les bottes, ça sera l'épée, et c'est l'objet qui est le liant, finalement, de l'histoire. Et j'ai voulu raconter, sans non plus en rajouter, le conte de la volute du Guadagnini de Ginette Neveu. Et à travers ça, l'ensemble de l'histoire dans laquelle cette volute s'intégrait finalement. Donc, pardon, c'est un peu long, mais les conditions de découverte étaient un peu longues. C'est
intéressant. Mais ce qui est drôle, justement, c'est que vous ayez été... Enfin, que ce qui vous a donné envie de raconter le roman soit à cause, par l'intermédiaire de Ginette Neveu, parce que donc il y avait grosso modo deux étoiles dans cet avion. Il y avait Marcel Cerdan, donc champion mondial de boxe, et Ginette Neveu, virtuose du violon. Pourtant, on pourrait penser, et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé, que la mort de l'un, malheureusement, a effacé la mort de l'autre, médiatiquement parlant. Mais
ouais, je pense que... non, c'est pas que je le pense, j'en suis certain. Au moment même, au lendemain du drame et les jours qui ont suivi, évidemment, il y a une différence de traitement. Mais Ginette Neveu reste extrêmement importante, et sa place dans les journaux est tout à fait conséquente. Vous avez des éditions spéciales sur Cerdan, des cahiers tous les jours dans François, par exemple, mais Neveu a toujours une colonne, deux colonnes, et on parle toujours de Ginette Neveu, parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, et c'est plutôt le temps qui est la mémoire... l'amnésie entre guillemets collective, alors je ne sais pas si c'est lié aux grandes figures féminines, c'est comme cette championne olympique qui s'appelait Micheline Ostermayer, qu'on a un peu oubliée, mais qui je pense qu'on a rarement eu de championne comme ça en France, mais même si on compare aux hommes, c'est-à-dire, elle a eu, je sais plus, 3 médailles d'or aux Jeux de Londres, et en même temps, elle était virtuose au piano. Et ça fait partie aussi de cette amnésie collective qu'on a, et sans faire de démagogie, vis-à-vis des grandes figures féminines. Et il se trouve que Ginette Neveu était notre plus grande violoniste, et reste sans doute, pour ceux qui s'y intéressent de près, pour ses interprétations de Ravel, du Tzigane ou du poème de Chausson, par exemple, ou de Sibelius, l'une des plus grandes interprètes qu'on ait eues en France. Et aussi, elle était connue pour être un immense talent, un peu spectaculaire, parce que très précoce. Elle avait comme surnom avant-guerre la Mozart en jupon, parce qu'à 11 ans, elle détenait donc le record du premier prix de conservatoire de Paris, mais aussi parce qu'à 14 ans, et encore plus marquant, elle remportait le grand concours Wieniawski, qui est le concours européen, devant des concurrents du double de son âge, dont David Oistreich. Et Ginette Neveu, dès avant-guerre même, connaît une tournée triomphale aux États-Unis, en URSS, en Amérique du Sud. Elle ne consacre sa vie qu'au violon, évidemment. La guerre arrive, elle a un comportement qui, lui, n'était pas connu, je pense, du grand public à l'époque, mais que je trouve, moi, exemplaire et en plus, qui était passionnant à raconter, à savoir une sorte de silence de la mer, mais musical, une violoniste qui refuse totalement de jouer en zone occupée et qui ne joue, qui descend pratiquement de standing, c'est-à-dire ne joue que dans des salles, des petites salles de concert en province, et refuse les ponts d'or, dont les concerts à Stuttgart. Et à partir du moment où les alliés arrivent, elle joue au fur et à mesure que les pays sont libérés, c'est-à-dire la Belgique est libérée, elle joue en Belgique, et elle suit l'avancée des troupes quasiment. Et c'est ce destin-là, effectivement, qui a été non pas phagocyté au moment même. Je pense que, évidemment, c'était un drame, et on peut le comprendre, c'était un traumatisme, la mort de Cerdan, parce qu'il était le plus grand champion, il avait redonné juste après-guerre une fierté nationale autour de quand il remporte son quand il devient champion du monde de boxe des poids moyens contre Tony Zell. Et pour tout le monde, la victoire de la Motta avait été truquée. Il y avait eu les conditions du match étaient extrêmement douteuses, et on s'attendait à une revanche, presque une formalité, en décembre au Madison Square Garden contre la Motta. Et puis à l'époque, on ne savait pas, le grand public ne savait pas l'idylle. Rétrospectivement, on imagine que, mais le grand public n'imaginait pas l'idylle qui se jouait avec l'amour entre Cerdan et Piaf, surtout à New York, et puis la vie officielle de Cerdan à Casablanca avec sa femme Marinette et la gloire casablancaise aussi de Cerdan, qui était ça a été à la fois un traumatisme pour la France et à l'époque donc pour Casablanca, et donc pardon pour revenir, je pense que c'est le temps qui, plus de 49 à nos jours, qui a effacé peu à peu la mémoire de Ginette Neveu, et elle paraît presque oubliée dès le départ, mais ça, je pense pas que, à mon avis, ça n'est pas le cas. Et pour l'avoir vue finalement dans les manchettes, ça n'est pas le cas d'emblée. Mais il est vrai que dans cette constellation, donc, deux étoiles étaient plus brillantes que d'autres, en tout cas pour les journaux. Et l'ambition du livre, c'était de montrer à quel point chaque destin porte en lui sa grande histoire, qui n'est peut-être pas celle qui est imprimée, mais qu'on est tous composés d'une histoire qui joue avec les notions de destin, nos propres choix, et que tous les passagers à la fois sont symboles de cette forme de destin, mais aussi de ce changement d'époque qui est à l'œuvre en 1949, à savoir l'immédiat après-guerre.
Oui, parce qu'effectivement, donc vous, bien évidemment, vous parlez de Marcel Cerdan et de Ginette Neveu, mais aussi des autres passagers et des membres de l'équipage. J'ai l'impression comme ça que vous essayez de leur redonner une voix, leur redonner une existence en tout cas. Comment vous avez mené vos recherches en fait pour retrouver leur passé?
Le choix de redonner une existence ou de faire le mot que j'avais à l'époque en écrivant, c'était plus la forme, et le livre prend cette forme-là de tombeau, de faire une œuvre de tombeau en littérature, mais de rester dans une forme d'esquisse pour ça, de court portrait. Qui s'intercale avec l'avancée de l'avion, l'avancée des recherches, et que la construction soit toujours une alternance entre ces portraits et, entre guillemets, l'action elle-même, l'action technologique presque, celle de l'avion et celle de l'avancée des secours, et même d'un second vol qui viendra essayer d'extraire les causes, puisque sans boîte noire, l'un des moyens étant de refaire le même tracé pour essayer de comprendre les raisons du crash. Ces portraits-là, ils étaient vraiment au cœur du livre parce que c'était une question qui m'obsédait, à savoir que dans un drame collectif, l'ensemble de ces individualités sont fondues dans un nom, un nom générique qui peut être même une marque, qui est par exemple, on va dire, les victimes du Lockerbie, les victimes de la Malaysia Airlines. Ou phagocyté, donc comme on disait, c'est-à-dire sous la forme d'une périphrase, on pourra dire c'est l'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan, ou plus récemment, même si on ne parle pas de même type de mort, mais par exemple l'avion de Marjorie qui s'est écrasé, le jet, je crois qu'il y avait trois personnes dedans, donc c'est l'avion dans lequel est mort Marjorie. Et cette annulation, le fait que les individualités soient tout de suite niées dans cette périphrase-là, qui est l'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan, rejoignait en tout cas des questions d'ordre littéraire que j'avais pu lire sous la plume d'autres écrivains qui avaient voulu prendre à bas le corps, en tout cas, cette question-là pour des drames, un drame absolu qui est la Shoah ou celui de la Première Guerre mondiale. À savoir Charlotte Delbault dans un livre qui s'appelle Le convoi du 24 janvier, qui raconte elle était envoyée dans les camps de la mort pour des raisons politiques et s'était retrouvée à Romainville dans ce convoi donc du 24 janvier. Et dans ce livre que vous pouvez trouver, elle re-raconte le destin de toutes ses compagnons d'infortune. En étant à la fois sous la forme d'une quasi fiche d'état civil, mais suivie d'un développement. Et c'est des courts chapitres pour l'ensemble de ces femmes qui racontent ce qui m'avait stupéfait à l'époque, qui ressemblent toutes à des ébauches de romans. Toutes ne sont pas abouties et toutes montrent à quel point la réalité est toujours plus inventive et invraisemblable que la fiction. À quel point il y a une part de romanesque en chacune de ces petites vies, de ce que j'appelle des héros minuscules. Et pour la Première Guerre mondiale, c'était un autre livre qui est un livre américain qui s'appelle Compagnie K et qui revient sur une compagnie de la Première Guerre mondiale en donnant la parole à chaque soldat de cette compagnie. Et vous pouvez avoir la même description d'un même événement, je ne sais pas, l'éclat d'un obus, par quatre soldats placés à quatre endroits différents. Ce qui revient à combler ce manque de notre propre infirmité à voir les choses en plein. Avec toujours une vision parcellaire ou avoir en fait un problème de point de vue. C'est ce que je dis en disant presque le destin est une affaire de point de vue. C'est où on se place, comment on se place, est-ce qu'on a une vision de l'ensemble? Évidemment non. Et donc voilà pour le. Et puis après pour le travail en lui-même, restait la part littéraire, c'est-à-dire qu'à la fois je ne faisais pas œuvre, et ce n'était pas le projet de départ, je ne faisais pas œuvre de journaliste, donc je ne visais pas l'objectivité absolue sur les faits, et je ne visais pas l'œuvre d'historien, c'est-à-dire l'exhaustivité totale et la référence absolue. Après, on se choisit tous une sorte de, en tout cas dans l'écriture, de canevas, on va dire, de dogme, on va dire, qu'on s'installe au départ, qui permettent de tenir en tout cas son projet. Et celui-ci était de collecter le maximum d'éléments, de faits, sans être non plus dans une obsession totale d'arriver au bout de l'histoire, et de composer comme un squelette. À partir de ces faits qui sont précis, qui tracent les contours, d'instiller dedans de la chair, qui peut être dans ce que l'on ne saura pas ou qu'on ne peut pas savoir. Des instants de vie qui nous sont volés, qu'on ne peut pas connaître, les blancs de l'histoire, mais sans vouloir non plus tomber dans une caricature qui serait celle de faire parler totalement dans l'avion. Je crois que c'est assez mineur et ça arrive finalement par des inventions qui sont de l'ordre de l'invention aux marges et qui composent comme une espèce d'univers mental du livre que René Holt lise dans l'avion Moby Dick et qu'il lise les premières pages, ça n'a pas plus d'importance sinon que celle d'accompagner le projet global, et tout en sachant que on peut imaginer un dialogue effectivement entre René Holt, comme je le fais, et le manager de Cerdan, puisque René Holt, pardon, est le secrétaire des Dernières Nouvelles d'Alsace. Il est dans cet avion, et c'est un peu l'un des seuls journalistes dans l'avion, avec un autre journaliste de Montréal. Et à quel point il va... on peut imaginer, évidemment, qu'il est intéressé par la présence de Cerdan et la possibilité de glaner quelques informations de première main directement dans l'avion. Et pour avoir rencontré, après, son petit-fils et sa fille... elle me disait, mais sachez que c'est tout à fait probable. Il ne dédaignait pas du tout aux informations sportives, mais vous auriez pu, et c'est là où le travail du romancier aussi est toujours infirme, vous auriez pu imaginer aussi un dialogue entre lui et Ginette Neveu, puisqu'il était amateur, il avait pris des cours de violon enfant, et il avait eu comme professeur, en tout cas, Charles Munch, rien de moins, qui était lui aussi... proche de Ginette Neveu, donc ils avaient quelqu'un en commun, ils auraient pu en parler. Et voilà comment à peu près le travail s'installe, tout en refusant ce que j'appelle dans le livre un petit théâtre d'ombre. En deux mots, parce que ça, je pourrais l'expliquer en disant je refuse un petit théâtre d'ombre, et en fait le faire par les exemples que je viens de donner. Et pour moi, ce petit théâtre d'ombre, c'était... En tout cas, je n'aurais pas pu assumer ce livre ni le faire, et je pense que ce projet m'aurait vraiment déplu si j'avais installé une première personne du singulier pour chacun de ces portraits. C'est-à-dire que presque toutes les victimes seraient convoquées sur le devant de la scène à un moment différent du livre pour dire, non pas moi Ginette Neveu, mais une description de Ginette Neveu disant « je longe les avenues le matin » et décrivant ses propres doutes sur une interprétation, une sorte de chose un peu risible, très vite peu crédible, et qui perd en plus l'omniscience qui m'intéressait, à savoir celle de la troisième personne, qui est toujours, en tout cas, gros de ce que je sais de leur avenir, qui s'arrête aux Açores, mais de leur passé, et à quel point leur passé peut être interprété comme parsemé de signes avant-coureurs de ce futur destin. Eux, comme nous tous, sont dans leur présent de plein pied et n'ont pas de vision globale de ça. Et moi-même, je n'en ai pas sinon des interprétations d'une vision qui est la mienne d'un monde qu'on essaye de raisonner tous un petit peu. En tout cas, je ne les fais pas venir sur le devant de la scène pour dire... pour parler à leur place. Je préfère les décrire.
Justement, pourquoi on n'emploie pas pour votre roman le terme de récit plutôt que de roman ?
Alors, je ne sais pas, moi je tenais au terme de roman qui est à la fois parce que je n'ai pas. Je pense que le. Mais c'est pas. En plus, il n'y a pas une nécessité absolue à ce que le. il y a une sorte de malentendu sur la nécessité qu'un roman soit pure fiction, par exemple. Mmh. Je pense que ça n'est pas là où se joue l'enjeu du roman, que le roman se joue plus sur l'écriture et le montage de l'information. Le montage, non pas dans un sens négatif, mais comment on n'est pas dans effectivement cette œuvre qui est pure objectivité des faits, pure détail, mais comment vient s'enchasser à travers cette histoire une écriture. Ce livre-là, presque comme un exercice de style, aurait pu être écrit d'une centaine de manières différentes par des gens, des écrivains avec leurs propres obsessions et leurs propres réinterprétations des signes et de l'histoire. On pourrait très bien l'appeler récit, tout comme d'autres livres qui essayent de réinterpréter le passé, lui donner sens, essayer d'avoir une vision globale de ce que veut dire ce passé, enfin d'avoir une vision, du moins une interprétation de ce passé, c'est-à-dire par exemple un livre comme celui d'Éric Vuillard, Tristesse de la Terre, ou celui de Patrick Deville sur Malcolm Lowry et Trotsky. On peut s'emparer de cette matière qu'on appelle du réel pour en montrer à la fois tout l'aspect romanesque en dénouant les fils, mais aussi en tissant quelque chose qui n'est que le fruit de l'œuvre d'imagination de celui qui regarde. Quand je vois des liens entre certains personnages, ils sont évidemment arbitraires. Ils n'existent que parce que, un peu, et c'est évidemment le titre, un peu comme dans une constellation, on vient relier les points entre eux, qui sont évidemment dans le ciel placés là, mais qui ne prennent forme que par l'arbitraire de l'œil humain qui relie les points entre eux pour former telle image qui serait scorpion, sagittaire ou autre. Et le roman est aussi à quel point on vient travailler effectivement les codes, jouer de la pure fiction. C'est certain que ce livre-là peut être déstabilisant, non pas... c'est pas non plus d'une audace absolue, mais parce qu'à un certain moment, le pacte de fiction qui est installé avec le lecteur, qui est celui qu'on appelle le pacte romanesque, le pacte qu'on fait tous en ouvrant un roman, en se disant « je vais être pris dans une histoire et jamais elle ne va être cassée », sinon qu'elle a été cassée, et là, rien de nouveau par des écrivains comme Diderot, qui, au milieu d'un livre comme Jacques le Fataliste, vous interpelle et vous disent « j'aurais pu raconter autrement cette histoire ou prendre à droite plutôt qu'à gauche ». Et peut-être parce qu'il est question de fatalité, c'est un peu cette tradition-là qui, à un moment, ressurgit, qui est de réinterpréter, de dire « j'aurais pu écrire différemment cette histoire, j'aurais pu ». Et le jeu qui apparaît d'un coup et qui casse le pacte de fiction, cette douce enveloppe qui nous dit, qui nous laisse croire qu'on va être totalement dans cet avion jusqu'au bout, qui est un pacte qui est non pas moralement condamné, mais assez douteux aussi par moments, en tout cas nous, en tant que lecteurs ou écrivains, quelle manière on se satisfait de ça. Et c'est aussi pour ça, pour plusieurs éléments, qui n'est pas que récit, si du moins on l'entend dans le sens de récit journalistique. Mais j'imagine que moi, je trouve que c'est un beau mot, récit, et à quel point, je ne sais pas si récit veut dire véracité, par exemple. Si c'est le cas, alors non. Si vous entendez que roman est là où la véracité, où on peut s'éloigner de la véracité, alors oui, parce que les faits sont là, mais qu'il y a des interprétations, qu'on s'en éloigne, qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, et que c'est dans cet entre-deux que le livre se place.
Alors, mais vous avez vécu, j'imagine, beaucoup, beaucoup de temps dans cet avion, enfin, mentalement du moins. Et vous n'avez jamais eu le fantasme de vous dire qu'est-ce qui se serait passé s'il était arrivé à destination ? Qu'est-ce qui serait arrivé à tous ces personnages ?
C'est drôle. Non, mais vraiment, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, et c'est la première fois que je me la pose. Je ne me suis jamais posé cette question-là de l'Uchronie, qui est « et si ?». Et pourtant, je me la pose souvent, et même j'ai édité un livre d'Uchronie, donc « et si ?», et c'est le fameux « et si ?» de Philippe Roth, dans le complot contre l'Amérique, où et si Lindbergh avait gagné contre Roosevelt, voilà. Ou est-ce qu'il y aurait eu un pacte de non-agression entre les États-Unis et l'Allemagne nazie? Dans ce cas-là, à imaginer que Cerdan aurait récupéré sa ceinture, qu'il n'aurait sans doute pas quitté sa femme, puisque si on lit la correspondance, les choses ne sont pas si claires, puisque quelques semaines avant, il était, et c'est ce qu'elle lui reproche, Piaf, il est encore en train de construire, c'est-à-dire installer d'autant plus sa maison à Enfin. Enfin, c'est une villa qu'il construit pour sa femme et ses enfants. Mais c'est vrai que le destin des anonymes est le plus surprenant dans ce qui aurait pu advenir, peut-être le moins téléguidé, ce qui laisse le plus de place à l'imagination. Parmi eux, Ernest Lovenstein, qui prenait cet avion pour qui était tanneur et qui prenait cet avion pour retrouver sa femme, qui n'était plus sa femme depuis un mois, puisqu'il avait divorcé à Reno. Ils avaient divorcé et ils avaient décidé de commun accord qu'ils allaient se remarier. Donc il y a cette histoire un peu folle comme ça de ce couple désuni-uni, avec cet enfant au milieu qui est Robert Lovenstein, qui est dans ce livre et qui maintenant est une personne âgée et qui à un moment prend la parole dans ce livre. Et donc sa mère n'aurait peut-être pas eu la même vie puisqu'elle est devenue, suite à ça, et c'est ce qu'il me disait en me répétant, c'est une femme qui avait de la ressource. Elle est devenue, suite à ce drame, la première femme courtier à New York pour subvenir rapidement aux besoins, en tout cas, de sa famille qui maintenant était éduquée à son fils. Et puis, on peut imaginer que les 5 bergers basques qui filaient vers les fermes de l'Oklahoma, du Wyoming, leur connaissance, auraient fait leurs 10 ans sur les terres américaines. Pour certains, comme la plupart, pour certains seraient rentrés dans la vallée, auraient acheté une terre, ou pour d'autres, se seraient mariés, auraient vécu aux États-Unis, auraient composé, auraient été l'un des membres de cette diaspora qui ne dit pas son nom aux États-Unis, de diaspora basque, qu'on retrouve dans certains romans, dont ceux de Greg Johnson, vous avez des Basques au milieu des États-Unis. Et voilà quel type de gens. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, tout en ayant vécu. Et alors là, vous disiez, vous avez habité. Et c'est vraiment pas des mots. Et je me méfie souvent des phrases autour de la littérature qui vont être j'ai été habité ou. En plus, c'est d'autant plus drôle que sur ce drame, c'est pas cet été où je sais plus, où c'est Marion Cotillard qui avait interprété Piaf qui disait oui. Qu'elle avait eu du mal, qu'elle se sentait, je sais plus, hantée par le. Genre, ça va, j'ai pas ce genre de problème. Mais par contre, d'avoir fraternisé et du moins d'avoir eu comme des. C'est plus comme des amis, un peu comme des amis imaginaires. J'ai mis beaucoup de moi en eux. De ce que j'aimerais être, de ce que je n'aimerais pas être, de destin que je n'aurais pas, de fantasmes sur ces destins-là. Donc, ils ont beaucoup à voir avec mon caractère ou une part de mon caractère, du moins dans certaines descriptions. Et en même temps, ce compagnonnage avec eux m'a amené à, et c'est un détail, une anecdote, à les appeler systématiquement par leur prénom. Enfin, quand je pense à ces personnes, je pense à eux par leur prénom. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment, en fait, en discutant avec la veuve d'Étienne Vatelot, en répétant un peu de manière automatique, Étienne, enfin comme ça, Étienne faisait ça. Et puis j'ai eu un pas de recul en disant, mais enfin bon, Monsieur Vatelot. Et puis elle me disait, non, c'est bon, vous pouvez l'appeler Étienne. Et je pense que c'est dû effectivement à ce temps passé avec ces personnes, avec ces victimes.
Alors vous avez dit le mot plusieurs fois. Bon, constellation, c'est surtout une affaire de destin, effectivement. Vous l'avez dit, je me permets de vous reciter, le destin est toujours une affaire de point de vue. de destin et aussi de prophétie, puisque Marcel Cerdan était allé voir une personne qui lui avait déconseillé de prendre l'avion, et en particulier un vendredi. Est-ce que, pour vous, pensez vraiment que c'est le destin qui les a placés là, dans cet avion ?
En tout cas, les notions de destin, de hasard, pourquoi on prend à droite plutôt qu'à gauche, et pourquoi cette décision-là, un jour, va avoir des conséquences heureuses ou malheureuses dans nos vies, et tout le monde connaît, tout le monde a cette histoire-là, l'a connue, s'est marié, n'aurait jamais dû ce jour-là, je vais dire une bêtise, être à la poste, est allé poster, est rencontré dans la file d'attente, voilà, la personne avec qui il vit, et on pense à, refait effectivement sa vie sous la forme du chronie en se disant mais si ce jour-là j'avais pris à gauche. Et donc cette question de destin, elle hante à peu près tout le monde. Dans ce cas présent, je ne fais, alors ça n'est pas par manque de courage ou de conviction, mais je ne fais que présenter des facettes différentes du destin, sur du hasard pur, du hasard objectif des surréalistes, de la prédestination, du fatum, de ces différentes facettes, de l'acharnement du destin pour certaines victimes, comme Amélie Ringler, la bobineuse, qui connaît à la fois la bonne fortune au départ, mais qui en même temps payera au centuple cette bonne fortune, comme s'il fallait toujours payer de ce que l'on nous offre, et en même temps ne jamais tirer de conclusion, laisser chacun avec ses croyances, et déposer entre guillemets les faits, ou du moins les récolter, les montrer les fils qui se tissent, et laisser le lecteur avec un jugement qui lui appartient, et en restant une interrogation qui est encore la mienne, qui est évidemment ces faisceaux troublants parfois. Ces coïncidences qui parsèment nos vies et qui nous laissent croire que tout est écrit ou pas, et puis souvent, et c'est le cas dans une histoire personnelle ou une histoire, je sais pas, d'amour, on parle d'élus, d'âme sœur, et on va se convaincre de cette âme sœur par un faisceau de coïncidences commun, de se dire que c'est forcément écrit que cette rencontre devait avoir lieu. Et puis quand c'est déceptif, à la fin, on revisite ce passé avec un œil froid, clinique, arbitraire. Enfin, justement, on relève l'arbitraire de ces coïncidences qui avaient été relevées en disant oh « Non, mais c'est parce que j'ai voulu chercher ce hasard, j'ai voulu me convaincre de ce hasard. » Donc c'est un peu de la même manière. Est-ce que c'est l'écrivain qui vient les présenter, les multiplier pour essayer de lui-même se convaincre que tout est écrit dans cet accident et qu'il est symbole en lui, que cet avion est symbole des forces qui agissent autour de nous, non pas non plus mystique, mais de fait que on participe d'un grand théâtre collectif dont nous sommes les acteurs et nous avançons tous sur le devant de la scène, comme dit la citation. Et voilà, après j'aime beaucoup une phrase qu'a prononcée Édith Piaf, qui était une boutade, mais qui me semble en fait finalement très profonde dans le cas de cet avion. Elle-même avait peur de l'avion, évidemment on comprend pourquoi, mais avant elle était déjà phobique, et ses amis lui disaient « Mais Edith, ton heure n'est pas venue », et elle répondait « Oui, mais si c'était l'heure du pilote ». Et cette phrase qui est une boutade, qui marche très bien, moi je la trouve très très profonde, et dans ce livre, c'est l'une des questions, c'est sans jamais tirer de conclusion, parce que c'est aussi tirer une conclusion serait scandaleux. Dire à une famille de victimes, comme un enquêteur qui dirait c'est lui qui avait le plus de faits, enfin c'est lui qui avait le plus de signes, ce qui est à la fois absurde et puis extrêmement cruel, qui ne veut rien dire en plus, mais qui est de présenter un faisceau de, pardon, je répète ce mot, mais de présenter pour chacun les signes avant-coureurs et de laisser planer la question qui est donc cette boutade de Piaf, pour qui sonne le glas d'une certaine manière. Et de laisser planer le doute, on pourrait dire que, je ne sais pas, Bernard Boutet de Montvel est le plus... et celui qui la veille doit être dans un autre avion et à Orly, par politesse, laisse sa place à une femme qui l'accompagne, qui est une actrice, Françoise Rosé, mais qui a un excédent de bagage tel qu'il en vient à lui laisser sa place et que donc il meurt d'une manière assez étrange puisqu'il meurt d'élégance. Il prendra le vol du 27 octobre et non du 26. Est-ce que c'est d'une certaine manière... Enfin, laisser ouvert le champ des possibilités des interrogations.
Alors, je me permets de revenir sur cette réalité dans laquelle est quand même inscrit votre roman. Et je me permets aussi de lire un tout petit passage. Hop, voilà. Vous dites... En termes rhétoriques, l'avion qui s'apprête à dégoler d'Orly le 7 décembre 1949 est une prosopopée. Ce livre n'en est pas une. La fiction d'un jeu omniscient enfilant les vêtements des victimes comme l'on s'englisse dans les costumes d'un petit théâtre d'époque n'existe pas. Pour revenir un peu plus en détail sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce à dire qu'on ne peut pas tout se permettre en littérature ?
Non, je crois. Je crois qu'on... Alors, j'ai pas de grande théorie sur ce que l'on peut faire, ne pas faire, et en littérature. Ce que j'explique dans ce passage-là, c'est, tout à l'heure, j'y revenais à propos de cette notion de théâtre d'époque. D'abord, le mot de prosopopée est une figure effectivement rhétorique qui signifie faire parler les morts. Dans le cas de ce passage, ça s'explique pour une raison assez triviale, mais qui présente, en tout cas qui me permet de développer cette idée-là, qui est la fois que cet avion qui s'envole, puisque c'est ce deuxième avion qui est non pas le FBAZN, mais le FBAZO, l'avion qui reprend le tracé initial, c'est une sorte d'avion spectral, pour extraire les causes, suivre la balise, suivre les balises et voir détecter le dysfonctionnement, est une prosopopée parce qu'il fait parler... il essaye de faire parler les morts, il essaye de faire parler ce qui ne parle pas. Et j'ai voulu à ce moment-là, finalement, mettre en tout cas là où la ligne de démarcation était pour moi, à savoir que ce livre-là ne parlerait pas à la première personne de ses victimes et ne serait pas la seule première personne qui serait là. Et celle de l'observateur qui se dévoile dans un rapport presque d'une certaine forme d'honnêteté pour le lecteur, à savoir pourquoi cette personne s'intéresse plus particulièrement à ces destins qui finalement sont éloignés de nous, de 1949. Pourquoi s'interroge-t-il, lui, sur ces signes du destin, de la bonne étoile, de la mauvaise fortune. Et c'est la seule fois où le jeu apparaît. Et ce jeu, entre guillemets, arrive justement à un moment où se pose la question de ce que l'on peut faire et ne pas faire en littérature. À un autre moment, ce n'est pas exactement ce que l'on ne peut pas faire, mais c'est à quel point je voulais montrer au lecteur que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on aurait pu rester dans un pacte romanesque assez doux, qui nous aura emmené jusqu'au bout, c'est-à-dire balayer toutes ces vies, en ressortir avec une sorte de moralité, comme dans les contes, justement, qui ne dit pas son nom, à savoir, je vous ai raconté la vie de ces hommes et ces femmes, et vous en sortez ou pas changé, et de vos vies, vous appliquerez ou pas, vous resterez craintif vis-à-vis de tel ou tel événement. Ça n'était pas le but dans ce livre. Et surtout, c'est un système que j'ai voulu combattre à un moment. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire d'Ernest Lovenstein, qui est donc ce tanneur qui part se remarier avec sa femme, son ex-femme. Et c'est exactement dans ce chapitre qu'arrive le jeu de l'enquêteur. Parce que, et pourtant, c'est assez tard dans le livre, j'explique que j'aurais pu réellement me satisfaire de cette, entre guillemets, bonne histoire, comme les journalistes disent. C'est la bonne histoire. Et j'aurais pu en rester là et me dire, voilà un chapitre pour raconter une histoire romanesque, mais aussi une histoire qui croise quelque chose de l'époque et croise quelque chose de la sociologie et de l'histoire des États-Unis, cette ville de Reno, construite autour du divorce, où il ne suffit de vivre je ne sais plus combien de semaines pour obtenir, pour être résident de l'État et divorcer, et donc avec, dans les années 20, les myriades d'acteurs se ruant à Reno pour divorcer un mois plus tard et convoler avec quelqu'un d'autre. Et c'est exactement le moment où je montre un mécanisme, non pas qui me fatigue, mais qui montrerait que ce livre n'est qu'un exercice de style. Et je dis, on peut aller, c'est pas qu'on peut aller plus loin, c'est je montre à quel point la réalité ou une découverte a dépassé cette simple bonne idée. C'est-à-dire la redécouverte pour moi d'une photo qui n'est pas issue qui n'est pas tirée d'un quotidien très célèbre aux États-Unis, qui est l'Iron Daily Globe, qui est une photo au lendemain, enfin, la une du journal, au lendemain de l'accident, à l'aéroport, où se trouve Madame Lovenstein, qui attend son ex-futur mari, et tenant dans ses bras son fils, les deux éplorés, indiquant la légende qu'on les aurait prévenus, qu'on leur aurait fait croire finalement à la possibilité de survivant, que Ernest Lovenstein en serait, et que finalement non. Et il était marqué sur cette légende, Bobby Lovenstein, 9 ans. Mais c'est assez simple de se dire à ce moment-là, quand on retombe sur cette information, qu'un Bobby Lovenstein de 9 ans, c'est donc un Robert Lovenstein, et qu'aux États-Unis, même un pays aussi vaste, il n'y a peut-être pas 10 000 qui sont nés en 1940 et qui s'appellent Robert Lovenstein. Et effectivement, il n'y en avait que 3. Et que le premier est pédopsychiatre. Alors là, c'est vraiment de la psychologie de bas étage, mais qu'on peut se dire que si on a vécu en tout cas un tel drame, peut-être on est devenu pédopsychiatre. En tout cas, on se met à avoir des intuitions un peu idiotes comme ça. Et puis tomber sur le mail de sa clinique, enfin là où il travaille encore, lui envoyer un mail, lui qui vous répond dans la nuit, et se rendre compte à quel point aussi vous commencez à avoir un rapport froid à l'événement qui est justement ce chapitre a permis vraiment au milieu du livre de recadrer les choses, même si le livre n'a pas été écrit dans l'ordre, il a à ce moment-là, et c'est pour ça que je l'ai replacé à ce moment-là, recadré ma façon de travailler, c'est-à-dire attention aux mauvaises habitudes vis-à-vis de ces vies, du traitement de ces destins, parce que j'avais mis dans l'objet du mail, c'est ridicule, c'est moi qui m'en fais une grande affaire, mais Ernest Lovenstein. Et je me rappelle avoir reçu sa réponse et que la seule réflexion, outre le fait que j'étais très heureux d'avoir retrouvé le fils d'Ernest Lovenstein immédiatement, c'était de me dire mais quel comportement de chacal j'ai, de charognard j'ai ce jour-là, en mettant comme objet à quelqu'un qui n'a sans doute pas entendu beaucoup, enfin, que 65 ans après, recevoir un mail indiquant Ernest Lovenstein, enfin comme objet. Vous avez perdu votre père, puis vous recevez Ernest Lovenstein comme objet sur votre boîte mail un matin. Je pense que les précautions d'usage, mais c'est aussi le mode de courrier qui est comme ça. Il n'y a plus de présentation autre que l'objet, qui est d'une violence, à mon avis, assez inouïe. Et après avoir montré patte blanche et l'avoir eu au téléphone, c'est une autre histoire que j'entends, non pas une autre histoire parce que je me serais trompé sur les informations que j'avais, mais une histoire qui démontre à quel point la réalité est toujours plus inventive que la fiction, que ce qu'on pourrait imaginer davantage sur un événement, à savoir leur passé, comment ils se sont rencontrés à Paris. Deux immigrés juifs, elle, je crois, de Lituanie, lui, de Westphalie, et se rencontrant à Paris, lui s'engageant dans la Légion, elle tombant enceinte au même moment de Robert, et traversant seule, puisque lui est à la Légion, la France pendant l'Exode, puisqu'on est en 1940, et traversant les Pyrénées grâce à des Français pour rejoindre ensuite Casablanca, où le père de Robert, donc Ernest Löwenstein, les rejoint, devient policier à Casablanca, le temps de rejoindre les États-Unis. Et c'était une autre histoire. Et c'est cette histoire-là que j'ai voulu convoquer aussi pour montrer, donc pour répondre à votre question, que c'est pas qu'on ne peut pas tout se permettre, mais du moins on peut avoir un rapport d'habitude qui peut être à combattre de bon ronron de l'histoire, parce qu'on a trouvé une structure qui porte l'histoire.
Mais c'est vrai que ce chapitre est assez déroutant à cause de cette apparition du jeu, effectivement, parce qu'il apparaît assez tard, puisqu'il apparaît un peu plus de la moitié du livre. Alors, et si je peux me permettre une question, c'est que ce même chapitre, vous le finissez par le « nous ». Qui c'est ce « nous » ?
Non, mais c'est un... Alors, il arrive tard, mais en même temps, c'est ce déséquilibre... Non pas pour dérouter le lecteur, parce que je ne cherche pas à perdre le lecteur, mais j'aimais bien que le coup de théâtre puisse arriver aussi par une histoire de personne, de point de vue dans l'histoire, de presque le coup de théâtre pour le lecteur soit, tiens, bah, y a quelqu'un d'autre. Ah oui, mais c'est celui qui... Alors, gardons l'image, même si elle est facile, de celui qui lève les yeux au ciel pour cette constellation. Qui est-il ? Non, on ne rentre pas dans un dévoilement heureusement... ça reste elliptique, parce que ne serait-ce que parce que le drame n'est en rien comparable aux troubles que l'on vit, en tout cas pour celui qui écrit, mais ça ramène sur un présent qui est celui de ce récit, justement. Oui. Le nous, c'est un... Il apparaît parce que quand je finis de parler à Ernest Löwenstein, je repense tout simplement à un projet que j'ai eu avec quelqu'un, qui était un projet d'écriture, et qui était un projet d'écriture qui porte très exactement sur le projet finalement général de ce livre-là, celui qui est en filigrane, de faire parler ceux qu'on appelle les personnages secondaires, de leur donner voix au chapitre. Et c'était un projet que je rappelle, qui avait un nom qui s'appelait Cercle Rouge, mais non pas comme le film de Melville, mais au pluriel, dans le sens où il aurait été un peu à l'image de ces photos où vous avez toujours la personne connue qui est entourée du cercle rouge dans le magazine pour qu'on vous montre bien où il est dans la photo quand il est, je ne sais pas, dans une photo de lycée à 17 ans ou une remise de diplôme. J'ai toujours aimé, en tout cas, me pencher sur ces photos pour imaginer la vie de celui qui est à gauche ou de celui qui est en second plan. Et en tout cas, c'est ces destins-là qui d'abord m'intéressent. Dans le cas de cet avion, évidemment, au premier plan se trouvent Cerdan et Neveu. Et je voulais voir derrière, un peu comme, je ne sais pas, dans le... La gloire de mon père, de Pagnol. L'autre jour, je m'y intéressais parce que je devais écrire un petit article on m'a demandé un petit article sur ce que je voulais, donc c'était plutôt pratique. Et j'ai dit, je voudrais le faire sur David Magnan. Alors on m'a dit, mais c'est qui ? Mais évidemment, personne ne savait, non plus, c'était un peu snob de dire David Magnan, mais c'est le Lily des Bellons dans La gloire de mon père. C'est le petit gamin des collines. Qui est le meilleur ami de Marcel, un peu l'enfant de la campagne, des collines, qui lui apprend les pièges qui est un petit contrebandier. À la fin du château de ma mère, il y a évidemment cette fin du livre que je cite un peu comme ça de mémoire, Telle est la vie des hommes, de courte joie traversée par je ne sais plus d'immenses chagrins. Il ne faut pas le raconter aux enfants. Et parce que juste avant, il raconte la mort de son frère et la mort de Lily, avec cette formule qui est, je ne sais plus, il est tombé donc à la guerre, en plein hiver, sur des touffes d'herbe dont il ne connaissait pas le nom. Et je m'étais intéressé à cette histoire parce que, non pas que l'histoire est fausse, racontée dans le livre, mais David Magnan était effectivement le Lily, l'ami de Marcel à la Treille, l'ami de son enfance, qui n'est pas mort en novembre, mais qui est mort en juillet, qui n'est pas mort sur des touffes d'herbe, mais sur une... Enfin, voilà, il y avait le côté enquête qui m'intéressait à nouveau, c'est-à-dire de décaler un petit peu, et la fin veut qu'il reste de toute façon très fidèle à la mémoire et de Lily, et qu'ils se trouvent tous les deux enterrés à la Treille, à quelques tombes de distance. Mais enfant déjà, dans cette histoire de Pagnol, ce qui m'intéressait, c'était, une fois refermé le livre et de voir que le narrateur était celui que l'on suivait, que quand le narrateur rentrait chez lui, on ne savait pas ce que devenait Lily. Moi, j'imaginais plus ce que devenait Lily ou ce que faisait Lily sans être en rapport avec Marcel. Ça m'intéressait davantage. Donc, c'est un peu ce point de vue-là.
Je me permets une petite digression. En fait, cet été, avant de savoir que Constellation allait sortir, je suis tombée sur un article assez, pour le coup maintenant intriguant, d'un artiste qui exposait des photos de crash d'avion dans lequel tout le monde avait survécu. Et j'ai repensé à ça, à un passage... Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. J'ai repensé à ça au moment où vous disiez, voilà, du désordre s'extirpe une beauté troublante. Et sein d'abeille, les monades répandues dans l'air composent, recomposent, décomposent en pointillisme une toile d'apparence chaotique. Du coup, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'on peut voir de la beauté dans un crash d'avion ?
Ce passage, il est sur un souvenir de lecture qui, moi, m'avait profondément marqué, qui est la Théodicée de... Enfin, c'est une œuvre philosophique, mais c'est très beau, de Leibniz, et qui, dans cette Théodicée, cherche à tout prix à prouver, et c'est la fameuse querelle et tournée au ridicule du Candide, le meilleur, tout est mieux dans le meilleur des mondes, suite au tremblement de terre de Lisbonne, et arriver quand même à expliquer que ce monde-là est à la fois raisonné d'un dessein divin, et donc ce dessein divin n'étant pas malveillant, malgré les drames. Et la défense que fait Leibniz du dessein divin, de l'architecture parfaite de ce grand horloger qui n'en est pas un pour lui, on reste sur une vision chrétienne et non pas des Lumières, et en plus... avec l'enjeu qui est celui de Leibniz de garder une sorte d'équation insoluble et qu'il s'empêtera, mais de manière très élégante dedans, sur garder, de dire que l'homme reste libre, même si tout est écrit. Donc, espèce de. Il est libre, il est enclin à choisir, mais il reste le dernier à choisir. Avec les exemples de César traversant le Rubicon. Ça revient un peu souvent. Enfin, ça revient souvent dans le livre. Et. Il y a cette image pour expliquer le désastre à l'époque, donc, le tremblement de terre de Lisbonne, mais si Dieu a laissé faire le tremblement de terre de Lisbonne, c'est que Dieu est malveillant, enfin que Dieu nous veut du mal. Et Leibniz explique, vous êtes comme humain, vous êtes comme devant un tableau à quelques centimètres du tableau. Pour vous, ce qui vous apparaît n'est que informe, n'est qu'obscurité. Prenez un recul de 5 pas et vous verrez la cohérence d'ensemble. Et évidemment qu'il y a que d'un crash s'extirpe une beauté troublante qui est peut-être celle d'une image générale de ce destin-là, mais aussi d'une certaine forme de mélancolie des ruines, on a toujours mes contemporaines, ce que les Lumières ont parlé de sublime vous savez, c'est les grands tableaux de naufrage. Il y avait toute cette mode du tableau de naufrage pour parler du sublime aussi. Et alors, je n'ai pas une obsession de ça, mais si à un moment, on ne peut pas être dans la description que dans l'horreur. Il peut y avoir aussi d'essayer de décaler le regard un petit peu et de dire cet amas informe a peut-être cette beauté qui nous échappe et qui est celle, en tout cas, d'un choc contre un mont, d'un avion qui est, comme on dit, à flanc de colline, et c'est un moment de description vraiment de l'avancée des secours et puis de l'identification qui, enfin, ça se présentait comme une nécessité d'en venir finalement à cette théorie-là. Comme je le soulignais tout à l'heure, il y avait le choix à travers les différents destins ou les moments de l'histoire de présenter des visions ou du moins des théories différentes sur ce destin-là. Et là, c'était finalement celle de Leibniz et de du dessin divin, de ce monde déjà écrit, mais pour lequel l'homme garde une certaine part de liberté dans ses choix.
Pour continuer en beauté, est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit passage ?
Oui, bien sûr. Je vous propose un passage sur le peintre qui se trouve dans cet avion, qui s'appelait Bernard Boutet de Montvel, et qui était un peintre, dont moi j'aime beaucoup le travail, qui était et donc il y avait deux objets d'étude, un qui était celui qui permettait de vivre, à savoir les grands portraits de pied comme ça des milliardaires américains de Café Society, en même temps lui des grands dessins, des esquisses ou des traits comme ça des aciéries ou un travail assez contemporain ou même sur des rues de Fès et donc il s'appelait Bernard Boutet de Montvel. Le chapitre s'intitule La folie Montvel. Bernard Boutet de Montvel n'aimait pas les voyages en avion. Il ne s'agissait en rien d'une phobie. Il avait été pilote. Un héros même. Mobilisé en 1914, après quelques exploits au-dessus de la baie de Somme, il se distingua lors d'un raid magistral entre Salonique et Bucarest. Malgré tout, il préférait de loin la lenteur des transatlantiques, et ce n'était que contraint qu'il empruntait la voie des airs. Homme d'un autre siècle, représentant d'un monde sur le déclin, qui laisserait bientôt place au règne des hommes pressés, Boutet de Montvel aurait volontiers souscrit au bilan de l'intelligence qu'établissait Paul Valéry. Nous ne supportons plus la durée, nous ne savons plus féconder l'ennui. Peintre des lignes sèches, de la géométrie plane, il aimait à observer la droite perfection des paquebots luxueux. Aux yeux de cet homme, le ventre mou du XXe siècle dans lequel il naviguait malgré lui ressemblait bien plus à la fin d'une époque que ne l'avait été l'entre-deux-guerres. Il se sentait déjà hors course et avec joie ralentissait la cadence. À l'homme nouveau, il répondait par la caricature de l'autre temps. L'outrance de son dandysme, la perfection de sa tenue, l'accentuation de la politesse et des manières étaient autant de freins à l'impatience générale. Un léger pas de côté en bottines cirées, dont il se délectait à la dérobée. Un déraillement en costume trois pièces de la marche du monde. Ces foules anonymes, perdues au milieu des buildings, des gares gigantesques et des rues géantes l'avaient pourtant obsédé. Il y voyait la retranscription parfaite d'un idéal, la lutte des formes planes, la massification encadrée en un plan vertical. Le dédain de l'avant-garde le rassurait plus qu'il ne le peinait. Il y repérait une reconnaissance. Un tempo décalé en forme d'éthique l'amenait à nager irrémédiablement à contre-courant. Et c'est par cette même réaction qu'il avait préféré en 1926, au plus fort du rayonnement de l'art parisien, émigrer aux États-Unis, puis en revenir pour un temps, quand, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, New York devint le lieu d'exil privilégié des artistes européens. Une conduite en chassé-croisée dont il fut parfois sa propre victime. Se jurant de se défaire de l'étiquette de peintre mondain, il était devenu outre-Atlantique et sans l'avoir planifié, le portraitiste des milliardaires, le peintre le plus prisé de la Café Society. Bien loin des paysages de Fès qu'il avait peints au sortir de la Grande Guerre, ou des séries de croquis réalisées pour le magazine Harper Bazaar à bord des transatlantiques, ou bien encore des aciéries de Chicago et des vues de Grand Central Station, il était célébré, adulé, pour ses portraits en pied. Masochisme artistique, déjà en 1908, c'est par un autoportrait qu'il connut la reconnaissance de ses pairs à la Société nationale des beaux-arts. Lors de l'exposition, amusé, il avait d'ailleurs répondu à la présentation de son travail par cette boutade faussement modeste, non, presque rien, un portrait de moi. À vouloir œuvrer contre soi-même, on y réussit parfois. Posture bien paradoxale qui pourrait laisser entendre que l'échec a ses vertus. Ainsi du krach de 1929 qu'il célébra. Les millionnaires se jetant du haut des gratte-ciels réduisaient ses carnets de commandes et lui permettaient de s'adonner aux peintures des étendues vides du Nouveau Monde. Une dépression féconde. Troquer la peinture de la chair triste des âmes fières pour des perspectives bétonnées. L'usine plutôt que son patron, l'immeuble en lieu et place de son propriétaire. Un visage aristocrate souligné par des yeux d'un bleu profond et des traits limpides qu'élargissaient un noble front. Bouté de Montvel, cheveux plaqués, toujours tirés à quatre épingles, était armé d'une beauté froide, implacable, tranchante. Il ne troublait guère cette gravure souveraine. Montvel était un excentrique rentré. Rien ne laissait présager la douce folie qui l'animait. Noctambule du début du siècle, il fréquentait Maxim's. Chaque soir, en bande, il rivalisait d'ingéniosité pour tromper l'ennui. Encore aujourd'hui, il se rappelle, hilar, le travestissement de son acolyte Ravot en conducteur d'omnibus détournant les passagers vers Pontoise. Montvel était pince sans rire, toujours impeccable. Il s'amusait de toute situation, y compris les plus inquiétantes. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, il fit poser l'ensemble de sa famille devant la maison de campagne, chacun paré d'un masque à gaz, le cliché surréaliste trônait encadré dans l'appartement new-yorkais. Une excentricité inscrite en 1936 dans la pierre d'une villa octogonale construite à Palm Beach, en Floride, baptisée, non sans ironie, la folie Montvel. Ce soir du 27 octobre, Montvel met un terme à ses exils périodiques. À bientôt 70 ans, il s'est juré de ne plus mettre un pied aux États-Unis. Sa folie Montvel a été vendue, son autre vie rapatriée en plusieurs malles, et le peintre s'apprête à profiter en France de sa retraite. Quelques mois plus tôt, un projet l'avait amusé pour un temps. En février 48, il recevait un appel étrange de la major RKO. On lui proposait de réaliser dans les plus brefs délais le portrait d'Ingrid Bergman pour la sortie du film Jeanne d'Arc. Pendant plusieurs jours, dans une suite de l'hôtel Hampshire House, il avait fait poser la star, épée à la main. Il l'admirait depuis les enchaînés d'Alfred Hitchcock et se réjouissait en secret d'un fabuleux pied de nez à l'histoire familiale. Son père, Maurice Beauté de Montvel, illustrateur de la fin du 19e siècle, restait célèbre pour l'album Jeanne d'Arc, publié en 1896, un ensemble de fresques historiques, chamarrées d'aquarelles reproduites en syncotypie. La boucle est bouclée, se disait-il, un cadeau bien involontaire de la RKO. En cet automne 1949, la presse encense le réalisateur Victor Fleming. André Barzin parle d'un film fidèle et émouvant. Mais Montvel n'avait pas trouvé le temps d'assister à une projection. Il terminait une dernière commande pour Mary Rogers qu'il lui faudrait livrer à la fin du mois d'octobre. Et c'est un curieux concours de circonstances qui nous vaut de compter le peintre parmi les passagers du FBAZN. La politesse, cette indifférence organisée, lui avait joué un dernier tour. L'ultime voyage de Montvel devait s'effectuer accompagné de l'actrice Françoise Rosé par le vol du mercredi 26 octobre. À l'embarquement, l'excédent de bagages de la comédienne avait contraint de bonne grâce Montvel à lui céder sa place. Il lui assurait, heureux de son geste, qu'un ajournement ne changerait strictement rien à son programme, qu'il serait bien plus embarrassé de ne pas l'aider que de manquer cet avion. Et, alliant l'élégance au bon mot, il ajoutait « Rappelez-vous Bergson, la politesse de l'esprit n'est guère autre chose qu'une espèce de souplesse. Et ce soir, chère Françoise, vous donnez à mon esprit empirique l'occasion d'en prouver le bien fondé. »
Merci. Pour terminer, bien évidemment, on va parler de vos projets. Alors, nous, un qui nous tient un petit peu à corps parce qu'on l'a déjà lu dans le rayon littérature et on a hâte de le présenter au public. Donc, les éditions du Sous-sol vont publier Une vie comme une autre de Darcy O'Brien. Mais à part ce très beau roman, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?
En fait, c'est une toute petite maison, les éditions du Sous-sol. Hein, et d'ailleurs, le nom va bien avec ça. Il se trouve que les éditions du Sous-sol ont la chance et... depuis un mois d'avoir intégré le seuil, un peu à la manière d'autres maisons comme l'Olivier ou Don Quichotte, qui sont des entités indépendantes, mais qui bénéficient aussi de tout ce que peut amener un groupe de bénéfiques, en tout cas un groupe qui a à cœur de défendre une certaine forme de littérature, qui est le seuil, la Martinière. Et c'est un projet qu'on portait de longue date, donc c'est tout sauf une opportunisme de rentrée littéraire. Et on a pu arriver avec des projets qui étaient assez forts. Il y en a un qui vous avez en librairie en ce moment et qui est pour nous, on est très, c'est très rare quand on, enfin c'est assez rare quand on édite un livre que la conviction qu'on a au départ, en tout cas en repérant, parce que moi je fais essentiellement des traductions, c'est-à-dire qu'on choisit soit par des intuitions de lecture, soit parce que, et là évidemment c'est un peu plus fléché, parce que le livre a déjà marché ailleurs et que, mais souvent quand on est une petite structure, ce n'est pas vers ce genre de livre à lesquels on va parce que tout simplement les enchères faisant que ceux-là ne sont pas pour nous. Donc on doit ruser, on doit avoir plus d'intuition, chercher les livres oubliés. Et un se trouve en librairie n'est pas oublié, mais tout simplement l'intuition avait été de repérer ce livre avant même qu'il marche en Angleterre, qui est un livre qui s'appelle Letters of Note et qui a été traduit par Claire Debru ici pour nous, et qui s'intitule Au bonheur des lettres, et qui est une anthologie qui est vraiment un très grand succès. On en est absolument ravis parce que ça a été tout sauf gagné au départ. Une anthologie de lettres, évidemment, vous en avez Florès tous les Noëls, mais celle-ci est sans faire le marchand de tapis. Et c'est pour ça qu'elle nous plaisait dès le départ, est vraiment différente, dans le sens où à la fois c'est des choses qu'on a lues nulle part ailleurs, mais aussi parce qu'elle est très éclectique et qu'elle passe du coq à l'âne, tout en donnant l'impression quand même d'une certaine forme un peu inédite de cohérence historique, littéraire, puisqu'on y trouve, et c'est un beau livre où vous avez les facsimilés toujours des lettres en regard, vous y trouvez autant la lettre de... Elisabeth II à Eisenhower indiquant la recette des scones pour 16 personnes, que Elvis écrivant à Nixon pour lui demander d'être agent double du FBI pour Dixit éradiquer les hippies, mais aussi une lettre très émouvante comme la dernière lettre de Virginia Woolf à Leonard, ou plusieurs lettres de Kurt Vonnegut, et une lettre assez géniale de Jack Kerouac à Marlon Brando lui disant qu'il faut absolument qu'il écrive le script de Sur la route et que d'ailleurs il jouera avec lui et lui indiquant à peu près tout ce qu'il doit faire et maintenant mets-toi au travail parce qu'il faut qu'on fasse ce film et lui disant je veux faire un film français aux États-Unis. Je sais plus, il y a une phrase comme ça qui est assez étonnante et puis des choses et avec des anonymes aussi un peu très touchantes comme alors il y en a une très drôle, c'est le directeur commercial des soupes Campbell, qui crée Andy Warhol, pour lui dire vous nous faites tellement de publicité, vous savez, c'est les boîtes de soupe qu'on retrouve sur les tableaux de Warhol. Vous faites tellement de publicité, comment on peut vous remercier? Est-ce que vous pourriez nous donner votre adresse pour qu'on vous envoie des caisses de tomates? Une autre qui est d'un enfant, qui écrit à l'architecte Frank Lloyd Wright, en lui disant vous avez fait la maison de mon père, elle est très belle, malheureusement. Malheureusement, mon père m'a offert un chien entre-temps et je n'ai pas la niche qui va avec. et là, une sorte de pacte, de contrat se met en place entre l'enfant et Frank Lloyd qui répond une niche pour Eddie est une opportunité sur un papier en tête, très chic. Et à la fin, on voit la photo de la niche dans le style de Frank Lloyd Wright qui a donc été réalisé. Donc voilà pourquoi le livre est différent et pourquoi il correspond très exactement, en tout cas, ce vers quoi on tend. Et Darcy O'Brien, c'est ce genre de découverte où vous dites que le métier d'éditeur ressemble parfois à descendre au fin fond de la mine et à un moment tomber sur une pépite en priant pour ne pas être pour être seul sur la concession, entre guillemets, si on doit filer la métaphore. Et du moins que ça ne va pas nous échapper, que c'est pour nous, qu'on sera les plus à même de le défendre. Et ce livre de Darcy O'Brien est un livre vraiment merveilleux. Qui est un livre qui avait eu un grand prix aux États-Unis dans les années 70. Il n'a rien écrit vraiment de à la hauteur de ce livre-là après, un peu comme si ce livre l'avait tué, ou un peu comme ce cinéaste Charles Laughton pour La Nuit du Chasseur, qui est l'homme d'un seul film. C'est un livre absolument merveilleux qui est un roman d'initiation. Tout se passe dans le Hollywood des années 45-50. Tout se passe dans la tête d'un enfant qui est une sorte de cousin d'Holden Caulfield de la Trappe-Cœur, mais sur la côte ouest, qui lui, donc toujours dans ce principe de tout raconter avec le regard de l'enfant et à cette première personne, qui se trouve dans une famille de stars du muet sur le déclin. Donc vous avez ce côté un peu Sunset Boulevard, mais au début, une espèce de faste Et on le suit avec un style vraiment qui est, sans jamais être démonstratif, entre les États-Unis, sa mère et ses parents qui divorcent, et donc se retrouve comme ça baladé, et comment il va atteindre cette vie comme les autres, comment on arrive malgré tout à une vie comparable à une vie normale, entre guillemets. Et c'est un très beau livre. Puis il y aura d'autres livres, non pas forcément de cet acabit, mais en tout cas, qui sont toujours dans cette recherche d'autres voies un peu différentes. Donc voilà.
Ben, on a hâte de découvrir ça. Puis, de toute façon, vous viendrez nous en parler. Vous êtes un habitué maintenant.
Ouais, en tout cas, pour Darcy O'Brien. Darcy O'Brien n'est plus là.
Oui.
Mais j'espère surtout que c'est les auteurs de la maison qui viendront en parler. Il y aura d'autres. Donc, il y a un très, très beau livre pour la rentrée littéraire de septembre prochain, qui est de Nathaniel Rich, qu'on espère faire venir, qui est un auteur américain jeune, très talentueux. Et c'est un très bon livre. Peut-être l'un de nos grands reporters, puisqu'on a toute la partie non-fiction, et quelqu'un comme Guétalèze. Mais on sait qu'il vient en avril, qu'on va le faire venir pour un grand livre sur la mafia qui sort, qui s'appelle Ton père, tu honoreras, qui est une plongée dans la mafia et qui a été la base du scénario des... Enfin, le scénariste des Sopranos a dit que pour lui, la référence était là. Et ce Ton père, tu honoreras, qu'on publie en mars, lui viendra le défendre en France. On n'a pas encore prévu. On sait où il va à peu près, mais c'est un... Ce sera bien quand les auteurs viendront parler des livres de la maison.
On les recevra avec plaisir en tout cas. Et merci beaucoup.
Merci à vous.